de suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Alors que les propositions de réforme pour répondre à la crise des gilets jaunes sont attendues dans les prochaines semaines, plusieurs syndicats appellent à manifester aujourd'hui une grève générale pour réclamer un tournant dans la politique sociale d'Emmanuel Macron.
Christophe Castaner et le ministre de l'économie Bruno Le Maire doivent être entendus aujourd'hui par deux commissions sénatoriales sur les violences commises en marge du mouvement de contestation des gilets jaunes.
Et toujours s'agissant de ces violences commises samedi dernier, le ministre de l'Intérieur et sa collègue de la Justice, Nicole Belloubet, seront également bientôt entendus par la commission des lois de l'Assemblée nationale. En attendant, le premier flic de France a commencé à s'expliquer ce matin. Selon lui, ses consignes strictes en matière de maintien de l'ordre n'auraient pas été mises en œuvre.
Dans votre journal également, le projet de loi sur les mobilités qui débarque au Sénat aujourd'hui.
Oui, ce texte entend apporter des réponses aux difficultés de transport de nombreux Français tout en intégrant l'enjeu climatique.
Des milliers d'étudiants défilent à nouveau depuis ce matin dans le centre d'Alger.
Ils réclament toujours le départ du président Abdelaziz Bouteflika, lequel a répété hier qu'il entendait rester au pouvoir jusqu'au prochain scrutin, soit bien après l'expiration constitutionnel de son mandat le 28 avril. Après 2 ans et demi de négociations et à 10 jours de la date théorique du divorce, l'avenir du Brexit demeure toujours incertain. Le projet de Theresa May se retrouve à nouveau dans l'impasse aujourd'hui depuis que la perspective d'un troisième vote sur l'accord de retrait conclu avec Bruxelles apparaît plus que jamais improbable. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera évidemment la grande table des idées.
L'énergie est-elle une marchandise comme une autre et les infrastructures en matière énergétique, c'est-à-dire de l'électricité au gaz, en quoi sont-elles des places stratégiques? On en parlera avec notre invité, l'essayiste et spécialiste des politiques environnementales, Aurélien Bernier.
Merci et à tout à l'heure. Après 4 mois de mobilisation des Gilets jaunes, eux entendent réhabiliter la grève. Ce sont les syndicats qui appellent à une grève générale aujourd'hui, dans le public comme dans le privé, à l'appel conjoint de la CGT, de FO Solidaire, mais aussi de l'UNEF et l'UNEL. Des manifestations sont prévues un peu partout en France contre la politique économique et sociale du gouvernement. Le Parti communiste a également annoncé sa participation. En revanche, et comme les fois précédentes, la CFDT, premier syndicat français qui a fait le choix de participer au grand débat, a décidé de ne pas s'associer à cette journée d'action dont elle juge les revendications trop éparses. Thomas Larabie, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors,
bonjour.
Au-delà des critiques formulées contre la politique de l'exécutif, cette journée est sans doute aussi une manière pour la CGT, comme pour Force Ouvrière, de revenir sur le devant de la scène. Toujours est-il que leurs revendications sont effectivement assez larges et rejoignent d'ailleurs pour certaines celles des Gilets jaunes, en particulier sur le pouvoir d'achat.
Oui, 150 manifestations sont prévues dans tout le pays, selon la CGT, avec des revendications classiques: l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, l'égalité femmes-hommes ou encore un véritable droit à la formation. Mais un autre sujet s'est invité depuis quelques jours, celui des retraites. Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a salué ce matin la proposition d'Agnès Buzyn d'allonger la durée du travail, autrement dit travailler après 62 ans. Cette idée prend donc de l'ampleur au sein du gouvernement, n'a pas manqué de faire réagir les syndicats, et Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a parlé d'une proposition complètement en dehors des réalités du monde du travail ce matin sur France Info. Nul doute qu'on en parlera dans les cortèges cet après-midi. Alors cette manifestation, elle marque aussi le retour de Force Ouvrière dans la rue, qui boudait les cortèges depuis 6 mois. Marquera-t-elle également une convergence des luttes entre syndicats et gilets jaunes comme le 5 février dernier? La question reste entière. En tout cas, sur Facebook et Twitter, il y a peu d'appels à rejoindre les manifestations syndicales aujourd'hui. Les gilets jaunes d'Île-de-France prévoient même un rassemblement autonome à 18h, porte de Versailles. Enfin, cette manifestation est hautement symbolique après le grand débat national, un grand débat boycotté, on le rappelle, par FO et la CGT. Cette journée de grève est donc une manière pour les syndicats de peser dans ce grand débat.
Alors, il est un syndicat, Thomas, qui lui, justement, n'a pas boudé le grand débat. Il s'agit du MEDEF, lequel rendait ce matin sa contribution.
Oui, avec 43 propositions pour le syndicat patronal qui a vu les choses en grand. Et un axe prioritaire, la baisse massive des impôts en faveur des ménages et des entreprises pour relancer la croissance et l'emploi, selon eux. Autre axe qui ne surprendra personne, favoriser l'entrepreneuriat. Le MEDEF réclame un prêt à taux zéro pour les jeunes souciés de monter leur entreprise. Le syndicat veut plus de ponts entre école et entreprise, en développant l'apprentissage ou encore en accueillant régulièrement du personnel de l'éducation nationale dans les sociétés. Et alors, dans le même sens, mais plus saugrenu cette fois, le MEDEF propose d'attribuer à chaque Français un numéro SIRET dès l'âge de 16 ans, pour qu'enfin l'homme et l'entreprise ne fassent plus qu'un. Et puis, dernier axe principal, les transports. Le MEDEF aimerait réduire le coût du permis de conduire en fonction des ressources de chacun, ou encore intégrer le code de la route au programme scolaire des lycéens. Et pour ce qui est du rail, comme la CGT, le MEDEF regrette la fermeture des petites lignes, mais on ne pourra malheureusement pas les réconcilier, puisque le syndicat patronal propose de confier ces petites lignes au secteur privé.
Merci Thomas Larabie. On ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité. Au cours d'un débat de plus de 6 heures à l'Élysée hier soir avec 64 intellectuels, Emmanuel Macron a fermement condamné les gilets jaunes les plus radicaux et défendu tous ses choix. Le chef de l'État a ainsi écarté la remise en cause de ses réformes, notamment sur l'ISF et le non-cumul des mandats. Il a aussi fermé la porte à une hausse des droits de succession, comme à l'expérimentation d'un revenu universel de base réclamé par certains département. Un peu plus tôt, l'exécutif avait lui dévoilé sa riposte sécuritaire pour tenter d'endiguer la violence lors des manifestations des gilets jaunes qui menacent de faire dérailler l'issue du grand débat, conçu comme une réponse à 4 mois de mobilisation, limogeage du préfet de police de Paris, interdiction de manifester dans les quartiers les plus touchés par les violences et puis augmentation des amendes. En revanche, la démission du ministre de l'Intérieur n'a pas été envisagée, a assuré le chef du gouvernement, critiquant un dysfonctionnement dans l'exécution d'une stratégie et non la stratégie elle-même. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, c'est au tour du principal intéressé de venir s'expliquer. Non seulement Christophe Castaner estime que ses consignes samedi dernier n'ont pas été appliquées, mais le ministre de l'Intérieur l'assure. À aucun moment, dit-il, je ne me suis fait engueuler par Emmanuel Macron.
Non, pas par Emmanuel Macron, mais par une bonne partie de l'opposition politique et des gilets jaunes, oui. Parce que finalement, Christophe Castaner, c'est lui le premier flic de France. Et si le maintien de l'ordre n'a pas été assuré correctement samedi, pour beaucoup, c'est de sa faute. Sauf qu'à la fin, qui saute, le préfet de police de Paris, Michel Delpech, et le patron de la sécurité publique parisienne, Frédéric Dupuche. Et cela s'explique pour le ministre de l'Intérieur, invité de France Inter ce matin.
Le paradoxe, et peut-être le reproche que l'on peut me faire et que l'on peut nous faire, c'est que samedi dernier, nous savions que 1500 casseurs venaient spécialement des black box parce que nous avions cette information-là. Et j'avais demandé et passé une consigne stricte. Même dispositif que le 8 décembre. Ça n'a pas été mis en œuvre. Il nous faut du coup une nouvelle équipe managériale pour mettre en œuvre ces consignes-là.
Si les forces de l'ordre ont eu pour consigne de moins utiliser les LBD, les lanceurs de balles de défense, cela s'est fait en aval de son ministère, assure Christophe Castaner. Il n'a donc pas à assumer une responsabilité qu'il ne juge pas sienne. Alors non, il l'affirme, il n'a pas pensé à démissionner.
Je ne crois pas qu'être chef, c'est de se battre la coulpe. Je pense qu'être chef, c'est de diriger une équipe, c'est de changer une doctrine opérationnelle en profondeur, c'est d'avoir le courage de le faire, alors que ça n'a pas été fait depuis 30 ans. C'est cela, être chef.
Un chef qui n'en a pas fini avec les explications. Avec son collègue de l'économie, Bruno Le Maire, ils sont attendus cet après-midi pour des auditions au Sénat, convoqués pour savoir si ces violences sont le résultat d'une faillite de la chaîne de commandement ou seulement du préfet de police, Michel Delpech.
Merci Rosalie Lafarge. Le Sénat entame à partir d'aujourd'hui l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation des mobilités qui entend apporter des réponses aux difficultés de transport de nombreux Français tout en intégrant l'enjeu climatique. Pour faciliter leur déplacement, le gouvernement veut donc favoriser ce qu'on appelle la multimodalité, un grand mot compliqué pour plus de simplicité. Le Sénat se prononcera le 2 avril prochain sur ce projet, le projet qui ira ensuite à l'Assemblée avant une adoption définitive prévue cet été. Refusant de céder à la pression de la rue, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, bien que très diminué par les séquelles de son AVC, a de nouveau pris sa plus belle plume hier pour répéter à qui veut bien l'entendre qu'il ne compte pas abandonner la tête de l'État avant l'élaboration d'une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum, ou dit autrement, qu'il entend rester à son poste jusqu'à un nouveau scrutin présidentiel, lequel scrutin a été renvoyé à une date toujours non précisée. De son côté, la coordination nationale pour le changement réunissant plusieurs dirigeants politiques, membres de l'opposition et militants, lui a aussitôt répondu ce matin qu'elle souhaitait voir le chef de l'État quitter ses fonctions à la fin de son mandat le 28 avril, tout en proposant la tenue d'élections à la fin d'une période de transition. Enfin, preuve toujours que le risque existe que la situation ne s'achemine progressivement vers une impasse systémique. Les consultations pour la formation d'un gouvernement entamées dimanche dernier continuent, elles, d'enregistrer plusieurs refus de participation. Quoi qu'il en soit, c'est donc dans ce contexte encore confus qu'une nouvelle journée de manifestation est organisée aujourd'hui à Alger. Waïba Filali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Alger où depuis ce matin, des milliers d'étudiants défilent dans les rues de la capitale.
Oui, depuis 10 heures ce matin, les étudiants des universités de pharmacie, de médecine, de sciences, d'économie, les élèves de l'école des travaux publics sont arrivés casque jaune sur la tête, drapeau national autour des épaules, toujours dans une ambiance joyeuse. Plusieurs milliers de jeunes chantent, certains rythment leur marche avec des derboukas, des youyou. Ils prennent des photos, des vidéos, des selfies d'eux, tout en criant tout de même « Voleurs, vous nous avez pillé le pays, pouvoir assassin ». Sur leur banderole, on retrouve encore beaucoup d'humour. contre, mon nutritionniste me déconseille ce régime. Peut-on lire sur l'une de ces banderoles de la détermination aussi? Vous avez allumé en nous une flamme qui ne s'éteindra qu'après votre départ. Les étudiants veulent donc montrer, je le dis, hein, qu'ils sont plus déterminés que jamais, plus pacifiques aussi. À un moment donné, le cortège s'est approché d'un hôpital et à ce moment-là, eh bien, les manifestants se sont tus. Pas un mot, pas une parole, pas une chanson. On ne va pas déranger nos frères, nos sœurs, nos parents, m'explique alors une jeune manifestante qui continuera de marcher, dit-elle, jusqu'à ce que le système dégage.
Merci Waïba Filali en direct d'Alger. Alors on l'a dit, un véritable bras de fer se joue actuellement entre pro-régime d'un côté et anti-Bouteflika de l'autre. Et il est aujourd'hui un homme qui pourrait sinon se poser en arbitre, du moins jouer éventuellement un rôle dans une sortie de crise. Cet homme, c'est Ahmed Gaït Salah, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui a fait entendre sa voix hier pour assurer que l'armée algérienne demeurait, je cite, le rempart du peuple et de la nation, une manière pour le général de ménager en quelque sorte la protestation. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Alors le patron de l'armée ira-t-il jusqu'à lâcher le clan Bouteflika? Seule certitude, Christian, à chacun des moments décisifs de l'histoire algérienne, l'armée aura souvent joué un rôle déterminant en coulisses.
Oui Thomas, l'ANP, l'Armée Nationale Populaire, née de l'indépendance en 62, a toujours été l'arbitre en dernier recours de la vie politique du pays. Son influence est déterminante en Algérie depuis le coup d'état militaire du colonel Houari Boumediene qui renversa le président Ahmed Ben Bella en 65. On se souvient aussi de l'interruption par l'armée du processus électoral en 92, élection susceptible de porter le Front islamique du salut au pouvoir, une ligne rouge pour les militaires. Alors aujourd'hui, tous les regards se tournent vers le général Ahmed Gaït Salah, le chef d'état-major, qui est un élément clé dans l'équation de sortie de crise. Après des propos initiaux très durs où il évoquait le spectre de la guerre civile en Libye et en Syrie, le patron de l'armée est revenu à une thématique très consensuelle. L'armée et le peuple algérien ne font qu'un, ils sont frères. Et surtout, il appelle à des solutions qu'il ne détaille pas et qui interviendront, je cite, au moment propice. La presse algérienne s'interroge sur cet agenda très flou et se demande si le 28 avril, date où selon la Constitution, le mandat du président Bouteflika s'achève, ne sera pas le moment de vérité. Tout dépendra de la dynamique du terrain, de la pression populaire. Tout l'enjeu pour le pouvoir algérien, c'est de faire décoller la conférence nationale qui doit refonder l'architecture politique de l'après-Bouteflika. En cas d'impasse, s'achemine-t-on vers la création d'un haut comité d'État, comme en janvier 92, après la démission du président Chadli Ben Jedid? On a bien le sentiment, Thomas, que la haute hiérarchie militaire algérienne se tient prêt à tous les scénarios.
Merci Christian Chéneau. En Afrique australe, le bilan du cyclone Idai, le plus puissant de ces 10 dernières années, ne cesse de s'alourdir. On parle à présent d'au moins 182 morts. Et hier, le président du Mozambique a laissé entendre que ce bilan pourrait même dépasser le millier de victimes. Enfin, au-delà de ce décompte macabre, la tempête qui a littéralement balayé le Mozambique, mais aussi le Zimbabwe en fin de semaine dernière, a par ailleurs laissé derrière elle un paysage de totale dévastation. Les précisions dans la région de Clerbarges.
Sur les images qui parviennent du Mozambique, des habitants fuient leur maison, de l'eau jusqu'à la taille. Les secouristes doivent aider des sinistrés à descendre des toits ou des arbres où ils se sont réfugiés. Le pays a été touché jeudi soir par le cyclone Idai, notamment le port de Beira, ville d'un demi-million d'habitants, complètement ravagé. Le président Philippe Nyusi a déploré un véritable désastre humanitaire, choqué par les corps qui flottent sur les rivières. Dans la région, un millier d'habitations, des hôpitaux et des écoles ont été engloutis par les eaux suite aux inondations et aux ruptures de barrages. La situation est similaire de l'autre côté de la frontière, à l'est du Zimbabwe, dans la région de Chimanimani. Le pays n'aurait jamais connu de destruction d'infrastructures d'une telle ampleur, selon le ministre des Transports, et beaucoup de zones sont encore inaccessibles pour les secours. La solidarité dans le pays commence à s'organiser avec la collecte de dons et l'envoi de médecins bénévoles dans les régions sinistrées. Selon les prévisions, les pluies devraient continuer à tomber sur la région, ce qui pourrait compliquer l'intervention des secours et aggraver le nombre de victimes.
Au lendemain de la fusillade qui a fait 3 morts et 5 blessés à Utrecht, dans le centre des Pays-Bas, les enquêteurs ont annoncé avoir retrouvé ce matin une lettre dans la voiture du principal suspect, une lettre qui accréditerait la piste terroriste. Jusqu'à présent, les mobiles du tireur, un homme originaire de 37 ans, originaire de Turquie, semblaient plutôt flous. Quand le Premier ministre évoquait un possible différend familial, la radio-télévision publique rappelait pour sa part que le suspect avait comparu il y a 2 semaines en justice dans une affaire de viol. Au Royaume-Uni, qui aurait pu croire qu'un énième rebondissement puisse contrarier davantage encore les plans de Theresa May au point de prolonger une crise politique déjà à bien des égards irrationnelle, plus loin encore dans la confusion. Et pourtant, il semble bien que l'annonce surprise hier du président de la Chambre des communes ait surpris de court Downing Street, se référant à une jurisprudence parlementaire datant de 1604. John Bercow, le tonitruant speaker conservateur de la Chambre, a déclaré que le gouvernement ne pouvait pas organiser, comme c'est son intention, un troisième vote sur un accord de Brexit avec le même texte que celui déjà rejeté à 2 reprises par les députés. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Theresa May s'était donné jusqu'à demain pour solliciter donc à nouveau le Parlement de Westminster sur l'accord de retrait négocié avec Bruxelles. Sauf qu'avec la déclaration hier du président de la Chambre des communes, Antoine, la plus grande incertitude est à nouveau retombée sur la suite du processus.
Absolument. Elle est enfermée d'ailleurs depuis 10h30 ce matin à Downing Street. Theresa May avec les principaux ministres. Réunion à huis clos pour tenter de trouver une énième solution à la crise. Il ne reste que 10 jours avant le Brexit et les conseillers examinent toutes les possibilités, absolument toutes, comme un texte qui a déjà été rejeté ne peut pas être présenté de nouveau aux députés dans la même session parlementaire. Plusieurs conseillers proposent même de décréter la fin de la session et d'en ouvrir une autre. Problème, cette ouverture de session, c'est la reine qui doit s'en charger avec un discours et on imagine mal sa gracieuse majesté venir disserter sur les déconvenues liées au Brexit. Techniquement, la première ministre peut aussi essayer de faire passer son accord sans le mettre au vote en rédigeant un nouveau projet de loi, mais la tentative de passer en force risque de mettre le feu au Parlement. Déjà, une 20aine de Brexiteurs eurosceptiques menacent de faire une grève totale des votes en s'abstenant lors des prochains scrutins, quel que soit le sujet, pour accélérer la chute de Theresa May. Au final, le salut de la Première Ministre viendra peut-être de Bruxelles. La BBC évoque une possibilité d'organiser un sommet européen de la dernière chance le 28 mars, 24 heures avant la date officielle du Brexit. John Bercow, pendant ce temps, est à la une de tous les tabloïds avec des titres plus ou moins flatteurs, le fossoyeur du Brexit, ou sur la front page du Sun, Bercow mon cul.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. En Allemagne, les jours du secrétaire d'État aux finances sont-ils comptés? Parce qu'avant de faire son entrée au gouvernement, l'homme était coprésident du directoire de Goldman Sachs. Plusieurs parlementaires dénoncent aujourd'hui un possible conflit d'intérêts dans l'éventuel dossier de fusion entre Deutsche Bank et Commerzbank. Un rapprochement qui, selon les syndicats, pourrait entraîner jusqu'à 30 000 suppressions de postes. Et puis toujours en Allemagne, c'est aujourd'hui que le pays doit lancer les enchères pour l'octroi des chantiers de sa future 5G. Un dossier pour le moins sensible dans la mesure où Berlin subit ici un chantage susceptible de chambouler rien de moins que l'échiquier géopolitique occidental. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes en direct de Berlin. Alors pour installer ces infrastructures, l'Allemagne ne s'empêche pas de faire possiblement appel à l'expertise du géant chinois Huawei, devenu un leader incontestable de la nouvelle génération ultra rapide de l'internet mobile, sauf que les États-Unis, eux, n'entendent pas laisser le choix à la première puissance européenne et vont jusqu'à menacer donc l'Allemagne de revoir leur coopération atlantique.
Oui, pour Washington, c'est l'équivalent du cheval de Troie si Huawei n'est pas candidat à ces enchères qui ont débuté ce matin et ça va prendre encore 1 ou 2 mois. Indirectement, c'est le cas. Le géant chinois fournit déjà, en tant qu'équipementier, les antennes dont ont besoin les opérateurs. Pour les États-Unis, si Berlin n'écarte pas Huawei, la structure des télécommunications allemandes sera compromise. Il faudra revoir la coopération en matière de renseignement et de cybersécurité. Rien de moins, c'est écrit noir sur blanc dans une lettre adressée adressée par le très encombrant ambassadeur américain à Berlin, un très proche de Trump, par ailleurs sur le départ, mais qui a donc pris la plume pour avertir très clairement Peter Altmaier, le ministre allemand de l'économie. Deuxième menace, la semaine dernière, du général américain qui commande les forces alliées en Europe. Les forces de l'OTAN, disait-il, cesseront de communiquer avec leurs collègues allemands si Berlin n'interdit pas Huawei. L'Allemagne est devenue l'une des cibles favorites de Trump et le gouvernement fédéral allemand se retrouve à subir ce chantage sans vouloir évidemment se couper du marché américain, très important pour son économie, mais sans vouloir non plus ouvrir un nouveau front avec la Chine, car Berlin a déjà dans le passé froissé Pékin. Alors quelle pourrait être la solution, Thomas? Sans aller jusqu'à bannir Huawei, l'Allemagne pourrait choisir la voie du milieu. D'abord, la négociation avec l'entreprise chinoise, et ils ont déjà obtenu quelques garanties, une coopération notamment avec les services de sécurité allemands. Mais le pays réfléchit aussi à une loi qui pourrait lui permettre d'exclure le géant chinois sans avoir officiellement à le bannir. Il pourrait par exemple demander le remplacement d'équipements déjà installés. Mais à ce jour, rien n'est encore inscrit à l'agenda législatif. Et les opérateurs eux-mêmes, aussi sous la pression de Washington, sont très anxieux à l'idée d'abandonner la meilleure technologie, celle du leader du marché.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche l'un de ses plus fervents admirateurs, son homologue brésilien Jair Bolsonaro, élu comme lui à la surprise générale sur un message de rupture. Et au-delà d'une passion commune pour les tweets, mais aussi un goût revendiqué de la provocation, l'ancien magnat de l'immobilier et l'ex-parachutiste sont à l'unisson sur nombre de sujets, critiques du multilatéralisme, dénonciation de l'accord de Paris sur le climat. Enfin, les deux hommes qui dénoncent inlassablement les dangers du socialisme sous toutes ses formes devrait profiter de cette tribune pour accroître encore un peu plus la pression sur le président vénézuélien Nicolas Maduro, dont il réclame avec force le départ depuis qu'ils ont reconnu l'opposant Juan Guaido comme président par intérim. L'homme clé des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, Tsunekazu Takeda, a annoncé ce matin sa décision de quitter en juin la présidence du Comité Olympique japonais à la suite de sa mise en examen pour corruption par la justice française. Il est soupçonné d'avoir autorisé deux versements suspects en juillet et octobre 2013 pour obtenir des votes favorables de membres du CIO lors de l'attribution des JO à Tokyo. C'était en 2013. Possible que certains ne l'achètent que pour l'avoir sur l'étagère. Le guide du petit futé sur la Corée du Nord, sorti officiel aujourd'hui. Un guide de 200 pages qui peut surprendre tant le pays de Kim Jong-un n'est a priori pas franchement ouvert. Et c'est sans doute la raison pour laquelle d'ailleurs ce guide est en réalité plutôt axé sur l'histoire du pays ainsi que sur les sites et autres monuments officiels. Alors ces dernières semaines, l'actualité autour du soi-disant réchauffement entre Washington et Pyongyang a remis les projecteurs sur cette dictature aux mains d'un président peu commun, mais l'éditeur du Petit Futé, lui, se défend de toute provocation et assure qu'il entendait par là répondre à une vraie demande. Les explications de Thibaut Cavaillès.
Pas plus de 16 hôtels référencés pour l'ensemble du pays, 13 restaurants seulement. Très vite, ce guide le rappelle, les possibilités en Corée du Nord sont très limitées. D'autant que toute visite doit se faire accompagnée d'un guide, d'un agent local, impossible de sortir des sentiers battus. Alors du coup, face à l'éditeur du Petit Futé, Dominique Ozias, on s'étonne de lire dans le guide que se rendre sur place permet de voir la réalité de la Corée du Nord.
Ça vous donne quand même l'impression de bien comprendre la réalité quand on vous interdit tout et qu'on vous donne simplement que des choses limitées à faire.
Une réalité donc. Le guide a été tiré à 4000 exemplaires. Alors que la Corée du Nord accueille peu de voyageurs francophones, le ministère français des Affaires étrangères déconseille d'ailleurs de s'y rendre. Mais le Petit Futé parie sur la fascination que peut représenter un pays aussi méconnu.
Depuis déjà pas mal d'années, on s'aperçoit que des pays un peu fermés ne sont pas forcément achetés par des gens qui vont se rendre dans le pays. Il y a bien longtemps, on a fait un guide de la Sibérie, il y a plus d'une vingtaine d'années, alors que le pays était quand même un peu fermé. Même beaucoup de gens qui avaient lu Michel Strogoff ou pour l'Afghanistan qui avaient lu les Cavaliers de Kessel voulaient savoir comment c'était, ce qu'on mangeait, quelle était l'histoire de ce pays.
Pour Pyongyang, l'intérêt de recevoir des touristes, c'est d'obtenir des devises étrangères avec lesquelles il est possible de payer. Pour l'éditeur du Petit Futé, son intérêt à lui, c'est de vendre des exemplaires. Mais Dominique Ozias n'est pas vraiment le meilleur VRP du pays de Kim Jong-un.
Mon dernier voyage en Corée du Nord, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai eu deux moments de bonheur. Le premier jour quand je suis arrivé, parce que j'étais très fier d'être l'un des rares Français à aller en Corée du Nord. Et le deuxième moment de bonheur, c'est quand je suis parti, parce qu'au bout de 15 jours, il me tardait de quitter ce pays.
De façon même plutôt cynique, le guide estime que le plus d'un voyage en Corée du Nord, c'est d'apprécier à son retour en Europe la liberté dont on y dispose.
Marlène Koutsieff, auteure de films cultes dans les années 60, est décédée à Moscou à l'âge de 93 ans, née en 1925 en Géorgie soviétique d'un père bolchevique, plus tard tué lors des purges staliniennes, et d'une mère aristocrate. Marlène, acronyme de Marx et Lénine, il avait signé une douzaine de films qui formeront donc le socle de la nouvelle vague soviétique pendant le dégel politique ayant suivi la mort de Staline. On termine ce journal avec un mot de météo. Cet après-midi, le ciel sera généralement dégagé à l'est, nuageux, voire pluvieux à l'ouest. Les températures en légère baisse, elles varieront entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.